divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Guy Langagne, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie d'être à l'antenne de l'Union rationaliste durant cette période estivale pour parler de ce pourquoi vous vous êtes battu, me semble-t-il, toute votre vie, la nécessité de substituer à un gouvernement d'opinion et démagogique une démocratie, éclairée par la raison et la culture scientifique. Vous êtes mathématicien de formation, vous avez été maire et député de Boulogne-sur-Mer. Vous avez été secrétaire d'État chargé de la mer sous les gouvernements de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius. Vous êtes à l'origine de la loi sur le littoral. Vous vous êtes battu au sein du Conseil de l'Europe contre l'enseignement du créationnisme dans l'éducation. Bref, votre vie durant, vous avez joué votre rôle de citoyen éclairé contre les dérives démagogiques. Alors, ma première question sera la suivante. À quoi attribuez-vous ou comment expliquez-vous cette posture combative dans votre itinéraire à la fois personnel et politique ?
Bon, c'est un peu compliqué. J'ai réfléchi en vous écoutant. Étant jeune, j'étais toujours curieux. Et les quelques réveils, c'était pendant la guerre, j'étais seul souvent à la maison. J'ai démonté quelques réveils, j'ai pas su très bien les remonter. Mais l'idée quand même était comment ça marche ce truc-là ? Et je crois que toute ma vie, et encore aujourd'hui, dès que je suis devant un problème quelconque, technique ou même pas technique, ou plutôt scientifique, ou même politique, je dis, mais comment ça marche ? Et je crois que j'en ai tiré la conclusion très tôt qu'il n'y a que la raison, le raisonnement qui me permettra effectivement de trouver la solution, que ce soit un frigidaire, votre chauffage en panne, il y a toujours la raison qui intervient, indépendamment bien sûr de ce dont on va parler, de toute la science.
Mais en même temps, cette curiosité de technicien ou d'ingénieur, elle n'est pas exactement la même que celle du mathématicien, du physicien.
Non, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pas tout à fait la même, mais le raisonnement reste toujours le même. Vous savez que je suis désespéré. Car pour des raisons strictement familiales, je me suis plongé, je ne l'avais pas fait depuis au moins une cinquantaine d'années, dans un programme de troisième. Et j'ai découvert, de mathématiques, et j'ai découvert avec horreur qu'il n'y avait pratiquement plus de démonstration. Et Cédric Vanini, qui est médaille Fields de mathématiques, disait il y a une dizaine de jours dans Le Monde, disait exactement la même chose. Et c'est dramatique. Parce que quel est l'intérêt des mathématiques ? C'est pas les résultats. On s'en fiche des résultats. Vous savez qu'il y avait un grand mathématicien, il s'appelait Dieudonné, qui était le patron du groupe Bourbaki, l'équipe mathématique française. Et il disait, je ne sais pas à quoi servent toutes ces généralités, et si ça sert à quelque chose, eh bien tant pis. C'est un peu ça. L'intérêt des mathématiques, c'est la démonstration.
Comment je fais aller de A en B. Leibniz.
C'est ça qu'il faut apprendre aux gamins, aux gosses, enfin, leur apprendre à raisonner. Ils auront le temps après d'utiliser des mathématiques, s'il le faut. Un petit point sur la démagogie. J'ai été élu maire en 77 et mon prédécesseur, qui était un vieux sénateur maire, un grand résistant, m'avait dit « j'ai pas beaucoup de conseils à te donner, mais il y en a un que je te donne, je ne citerai pas les autres, il m'en a donné trois. Dis toujours non, il sera toujours temps de dire oui après. » Et il a tout à fait raison. J'ai essayé de tenir ça. Et vous savez, vous qui êtes philosophe, qu'il y a une phrase de Théodore Adorno, eh bien, la phrase d'Adorno est la suivante. Aucune pensée n'est à l'abri des méfaits de la communication. Je crois que le monde, et c'est un message général, le monde politique aujourd'hui est victime de l'excès de communication. Pour prendre un exemple mathématique, si vous voulez bien, la conjecture de Goldbach, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais tout le monde peut comprendre, tout nombre pair est la somme de nos nombres premiers. On cherche ça depuis le XVIIIe siècle. On n'a pas trouvé de démonstration. C'est donc épouvantablement compliqué. Eh bien, un certain nombre d'élus aujourd'hui, s'ils devaient s'engager là-dedans, diraient « avant la fin de l'année, j'aurais démontré la conjecture de Goldbach ». Les mathématiciens vont tous sourire, mais c'est ce qui se passe. On fait des promesses, et tous les gouvernements sont dans le même sac, en quelque sorte, et qu'on ne peut pas tenir. Et c'est, je crois, qu'une atteinte à la rigueur intellectuelle, je suis très clair là-dessus, c'est l'excès de communication, pour reprendre ce que disait Adorno.
Bon, vous ne cessez de dénoncer les méfaits du relativisme ou de la relégation sur un même plan de données qui n'auraient aucun rapport pour expliquer l'obscurantisme ou l'ignorance des politiques face aux questions scientifiques. et l'absence d'une véritable culture scientifique comme rempart à cet obscurantisme. Alors peut-être ma question est la suivante. Qu'est-ce que la culture scientifique pour vous et que devrait-on apprendre aux politiques dans les grandes écoles, qu'il s'agisse de Sciences Po, de l'ENA ?
Il ne s'agit pas d'apprendre la mécanique quantique ou je ne sais quoi. Il ne s'agit pas de cela. Et vous de savoir étudier un génome dans le détail, c'est pas ça. Il s'agit de bien comprendre ce que peut dire un scientifique ou non. Alors, si vous voulez, je vais illustrer ça par deux ou trois exemples, très vite. Le premier sur le rayonnement électromagnétique. Les rayonnements électromagnétiques, vous savez qu'il y a un certain nombre de décrets qui ont été pris, ou même une loi votée, pour limiter les effets négatifs ou cancérigènes du rayonnement électromagnétique. Or, tout ça ne résiste pas à l'analyse scientifique sérieuse. Pas du tout. Vous savez qu'on a fait des tests sérieux, des gens qui se plaignaient, qui avaient fourni des certificats médicaux disant « Eh bien, on est malade depuis qu'il y a un relais de téléphone mobile qui l'a installé ». Puis quand on les a mis dans une salle avec des médecins à côté, en leur demandant à quel moment ils se sentaient mal, et qu'on coupait ou qu'on ne coupait pas le courant dans le relais, il n'y avait aucun rapport. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce n'est pas vrai.
Vous dites même que des personnes avaient ressenti les méfaits des ondes ou des rayons électromagnétiques, oui. Alors même que le relais n'était pas branché.
Oui, c'est ça, tout à fait. Mais, et c'est là-dessus que je voudrais insister. Vous trouvez, alors je ne vais pas citer le nom pour la paix des ménages, mais un organisme qui s'appelle le CRIREM dit les rayonnements électromagnétiques, ça a été prouvé par le CIRC, c'est une émanation de l'OMS, c'est le Comité international de recherche sur le cancer, a été classé en 2B, excuse-moi ce détail technique, comme l'amiante ou le sida. Alors c'est là mon côté rationaliste. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sur le site du CIRC, puis j'ai regardé la liste qui est très longue, il y a des pages et des pages et des pages, tous les produits ont été comme ça étudiés. Et vous apercevez effectivement que le sida, mais l'amiante, mais aussi l'alcool et le tabac sont à catégorie 1, sûrement cancérigènes. Et vous trouvez bien loin derrière, en 2B, effectivement, le rayonnement électromagnétique. Et si ça peut vous rassurer, c'est classé avec le café et les légumes vinaigres. Donc c'est aussi cancérigène que ces deux produits. Mais c'est une véritable escroquerie intellectuelle de répandre la peur par ce biais. Un deuxième exemple, c'est les OGM. On en parle.
Mais peut-être arrêtons-nous une seconde sur cet exemple parce que il me semble emblématique de ce que vous dénoncez comme relativiste.
Oui.
Mettre sur le même plan des choses qui n'ont absolument rien à voir.
C'est ça. Si vous avez un de vos proches qui est très malade, vous allez consulter les meilleurs spécialistes en France ou même en Europe ou même dans le monde. Mais vous n'allez pas aller chercher le brave homme qui travaille dans son bureau, le type qui passe dans le couloir. Quand il s'agit de choses scientifiques, seuls les scientifiques peuvent savoir de quoi ils parlent. C'est très difficile, ça a l'air antidémocratique. Ce n'est pas antidémocratique sur des sujets compliqués. Il faut avoir une démarche rigoureuse pour savoir si oui ou non, effectivement il y a une chose.
Et Guy Langagne, vous parlez des scientifiques, non pas des experts, ce qui est tout à fait différent.
Non, tout à fait. Mais c'est là qu'on tombera sur le problème que vous évoquiez, celui du politique. Encore faut-il que le politique comprenne le langage des experts et le langage des scientifiques, qu'il sache. Je reviens quelques instants, mais 10 secondes, sur le problème du rayonnement.
Bien sûr.
Le dernier point, la dernière catégorie, c'est 4, et j'ai écrit quelque part « sûrement pas cancérigène ». Les scientifiques ne disent pas ça. Ça veut dire ça dans le langage courant. Mais c'est marqué « probablement pas, probablement cas cancérigène ». Ça veut dire que le langage de la science est un langage très de grande prudence. C'est pas binaire, c'est pas oui ou non. L'exemple aussi, c'est les OGM. Alors là, je me permettrai d'être un peu sévère. Vous savez qu'il y a 2 milliards de personnes qui mangent aujourd'hui des OGM dans le monde. Il n'y a jamais eu un malade. Mais en même temps, il y a eu 100 millions de morts au XXe siècle à cause du tabac. Pendant que nous parlons, toutes les 4 secondes, une personne meurt dans le monde à la suite de l'absorption de tabac. Toutes les 4 secondes. Eh bien, on a expliqué que les OGM, c'était dangereux et ils sont interdits. Par lâcheté, je pèse bien mes mots par lâcheté du monde politique.
Alors, j'ai aussi... Devant des intérêts économiques.
Oui, ce n'est pas des intérêts économiques. J'ai essayé parce que...
Bon, le lobby du tabac.
Oui, tout à fait, le lobby du tabac. Mais j'ai regardé sur Internet toujours. Et j'ai trouvé quelqu'un qui s'est illustré contre les OGM, c'est José Bové. Un homme politique, je peux me permettre, donc, en tant que politique, de le critiquer. Et il y a une déclaration qui a été faite par lui, je la garantis. Je crois que tout ce qui est... on sait que les OGM ne sont pas dangereux, mais ça fait peur. Donc c'est parfait pour atteindre notre but politique. Et le fondement même de sa pensée est le suivant. Le 1er mai, sur la chaîne KTO 2014, je suis contre toute manipulation sur le vivant. Pour moi, tout ce qui est manipulation sur le vivant, qu'il soit animal, végétal ou encore plus humain, doit être combattu. Ça veut dire, ma chère Emmanuelle, que vous ne seriez, vous peut-être parce que vous êtes jeune, mais moi je ne serais sûrement pas là si on n'avait pas à un moment donné manipulé le vivant. C'est-à-dire que c'est pour des raisons, une espèce de nature qui est bonne en soi, à laquelle on ne doit pas toucher, qu'on est contre les OGM. C'est-à-dire qu'on est au fond contre le progrès. Tous les progrès, sans exception, de l'humanité ont été faits en prenant quelque chose sur la nature.
Donc, ici, ce que Guy Langagne vous dénoncez, c'est l'instrumentalisation politique, idéologique peut-être, d'un certain rapport à la science, ignorant, qui agite la peur, à des bénéfices, pour des bénéfices, en vue de bénéfices idéologiques.
Et alors, même celui qui n'est pas d'accord, prenons l'exemple de José Bové, se dit « Oh là !» Et c'est là le principe général. Vous avez des scientifiques qui ont travaillé 15 ans sur un sujet qu'ils connaissent. Vous mettez des gens en face qui ne connaissent rien et qui, pour des raisons purement idéologiques, sont hostiles, prenons les OGM, prenons le rayonnement électromagnétique, on peut trouver d'autres exemples. Et le politique, par manque de clairvoyance, et je le dis clairement, politique que je vis par manque de courage, la vérité est sûrement quelque part entre les deux. Et de, on interdit les OGM, on empêche, on va diminuer la puissance des relais pour les téléphones, ce qui d'ailleurs a abouti à l'effet inverse, parce que votre portable est obligé d'émettre plus fortement. Oui. Bon, on ne va pas engager ce débat. Alors, la question que vous me posiez, parce que je n'y ai pas répondu en définitive, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, le professeur Charpak, qui est mort, hélas, qui était un prix Nobel de physique, disait « On ne devrait pas avoir le droit de commencer des études avant d'avoir été confronté à la science. » Je considère que l'école Sciences Po et l'école nationale d'administration, pour reprendre l'expression du Père Ubu, sont des machines à décerveler. Je suis très dur.
Mais là-dessus, je m'inscris en faux.
Oui, bien sûr.
Mais pour les connaître de près, ces deux écoles, je les défendrais.
Oui, oui, bien sûr. À condition qu'on change. C'est pas les gens qui ont passé des concours difficiles qui sont en cause, vous le devinez.
Oui, qui c'est sont très bien cortiqués.
Oui, oui, tout à fait. Il faut qu'on leur apprenne ce qu'est la science. Il faut leur apprendre. C'est ce que disait Charpak. J'essaye d'expliquer la science à ceux plus ignorants et j'essaye de le faire avec ceux des grandes écoles. Il faut absolument qu'on réussisse à remettre de la science. Brévin, Édouard Brévin, le président de l'Union rationaliste,
dit
« Depuis deux générations, la science est absente de la formation des élites politiques, économiques et administratives et judiciaires. »
Alors, moi, je pondérerais votre propos quand même en disant à la fois que l'éducation nationale remplit son rôle d'instruction vis-à-vis de la physique, de la biologie.
Non, mais enfin, c'est... non, pour l'instant, on ne le fait pas bien.
Alors là, oui, je m'inscrirai un peu en faux, mais il me semble que le vrai enjeu, c'est aussi de comprendre pourquoi tant de nos jeunes gens et jeunes filles extrêmement brillantes s'orientent plutôt vers des métiers de type école de commerce que vers les écoles scientifiques.
La réponse est très claire.
On connaît la réponse.
Pour trois raisons.
Oui.
La première, c'est que la recherche est très difficile. Parce que c'est sur le plan psychologique, quand on trouve ça va, quand on ne trouve pas, c'est épouvantable.
Absolument.
Deuxièmement, c'est beaucoup plus rémunérateur.
Absolument.
Vous avez un chercheur à Bac plus 12 qui gagne 1800, 2000 euros par mois, alors que son copain qui a fait une école de commerce gagne 3 fois ou 4 fois ça. Enfin...
Donc sans doute qu'une des solutions, c'est de réévaluer la science.
Et puis la réévaluer, et puis aussi la considération, effectivement, le chercheur ou l'enseignant, si vous voulez même de haut niveau, vous êtes enseignante, n'a pas la considération qu'il devrait avoir de la part de l'opinion publique.
Absolument.
Donc il faut remettre tout cela. Ça suppose quoi ? Qu'on ait, par exemple, au niveau de la recherche, qu'on ait un ministre d'État. Je pèse bien mes mots. C'est un ministre d'État qu'on devrait avoir.
Pas un secrétaire d'État.
Oui, ça n'a rien à voir avec mon ami Thierry Mandon, pour qui j'ai de l'amitié. Ça n'a rien à voir. Mais on devrait avoir un ministre d'État pour montrer la volonté. Vous savez qu'aujourd'hui, le crédit impôt recherche, qui est une véritable escroquerie, je pèse bien mes mots, eh bien, est le double, coûte à l'État le double du budget du CNRS. Donc, vous voyez que là-dessus. Donc cela suppose, si vous voulez, une espèce de révolution. Comment on peut faire ? Ce n'est pas simple. Je pense que il faut se battre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas que le chercheur reste. Il faut que ce soit lui qui montre que sans lui, on ne peut rien faire. Le chercheur, science théorique ou science pure ou science appliquée, hein, je mets les deux. Il faut avoir, c'est ce que disait Yves Bréchet, il faut des lutteurs. Et je pense qu'il faut que, et le politique prenne conscience que, effectivement, Si on continue comme ça, et ça sera sans doute ma conclusion pessimiste, si on continue comme ça, vos arrière-arrière-arrière-petits-enfants, pour 3 euros par jour, fabriqueront des polos pour que les belles chinoises puissent s'habiller. Parce que c'est un aspect économique que je n'ai pas évoqué. Mais si la France ne développe pas dans un certain nombre de domaines, effectivement, de la recherche très poussée, sciences pures et sciences appliquées, ben nous serons des sous-traitants. Et c'est ce qui m'inquiète beaucoup sur le plan de la pensée rationnelle. Je suis pour une pensée rationnelle qui n'exclut pas la poésie ou la musique, hein, mais une pensée rationnelle. Deuxièmement, une politique qui prenne conscience de sa responsabilité quand il s'agit des sciences. Et troisièmement, une responsabilité à l'égard de nos futurs, de nos descendants.
Guy Langagne, je vous remercie d'avoir rappelé au fond les orientations qui sont celles de l'Union rationaliste, promouvoir la recherche, la science et promouvoir tout ce qui peut enrichir la culture scientifique.
Oui, vous comprendrez pourquoi je crois que ma première adhésion à l'Union rationaliste remonte à plus de 50 ans.
Guy Langagne, je vous remercie.
Merci.
Je rappelle que l'ouvrage écrit par, coordonné par Jacques Aïsinski et Hélène Langevin-Joliot, « Science et culture, repères pour une culture scientifique commune » est diffusé et édité par les éditions Apogée, reprend le projet de ce développement de la culture scientifique que Guy Langagne vient de développer. Je rappelle le dernier numéro de Raison Présente, les actes du colloque de l'Union rationaliste sur le progrès. Je remercie Dany Journaud et Éric Boisset qui ont rendu possible cette émission. Je vous souhaite un bel été et je vous dis au mois prochain.